Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par le Mozambique. 10 personnes, dont des enfants, ont été retrouvées décapitées dimanche dans l'extrême nord du pays, victimes d'une attaque attribuée à un groupe islamiste à l'origine de multiples violences dans la région. L'attaque s'est déroulée aux premières heures du jour dimanche dans le petit village de Mondjan, dans la province de Cabo Delgado, non loin de la frontière avec la Tanzanie. Les assaillants feraient partie du groupe islamiste dénommé les Shebab, qui s'est fait connaître en octobre dernier lors d'une opération qui a visé le commissariat de police et la caserne militaire de la ville de Mocimboa da Praia, également dans la province de Cabo Delgado. La direction de la police mozambicaine a annoncé la tenue d'une conférence de presse ce mardi après-midi dans la capitale Maputo. Politique en RDC, le président français Emmanuel Macron et son homologue angolais João Lourenço ont tous deux réaffirmé leur soutien aux accords qui prévoient la tenue d'élections dans le pays le 23 décembre. Les deux leaders excluent la participation de l'actuel président congolais Joseph Kabila dans les scrutins à venir. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Le président français a déclaré que Paris appuiera les initiatives des pays de la région et de l'Union africaine pour faire appliquer les accords de la Saint-Sylvestre 2017. « Nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes volontés », a souligné Emmanuel Macron. Il a souhaité que les réunions des prochaines semaines permettent d'aboutir à un résultat clair. De son côté, le président angolais a indiqué que les dernières discussions avec le président rwandais Paul Kagame ne sont pas un secret et a rappelé que le président Kabila doit respecter les accords. D'après João Lourenço, ces accords ont reçu la bénédiction de l'Église, donc tout ce qui est béni doit être respecté. Il a cependant affirmé ne pas vouloir s'ingérer dans les affaires internes de la RDC, précisant qu'il s'agit d'un conseil et pas une obligation. Hier, Kinshasa a publiquement demandé des explications au président français. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende a dénoncé les propos subliminaux et pleins d'ambiguïté tenus le 23 mai par Emmanuel Macron au cours de sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame.
Zimbabwe, pour la première fois depuis 2002, l'Union européenne enverra des observateurs électoraux dans le pays au scrutin présidentiel et législatif prévu en juillet. C'est ce qui ressort de l'accord conclu lundi entre Bruxelles et Harare. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Le nouveau régime zimbabwéen tente de renouer avec l'Occident en invitant différents acteurs internationaux à observer la démocratie en action. La nouvelle administration témoigne de son désir de transparence dans le processus électoral, a fait savoir le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères Sibusiso Moyo. Les termes de l'accord conclu entre Harare et Bruxelles portent essentiellement sur les droits et obligations de la mission de l'Union européenne au Zimbabwe lors des scrutins. Le nouveau chef de l'État zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, candidat de la ZANU-PF à la présidence, assure que les élections seront transparentes et pacifiques. Les critiques de M. Mnangagwa doutent cependant de son engagement, rappelant qu'il a été l'un des exécuteurs de la répression ordonnée par Robert Mugabe. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Zimbabwe, Philippe Vandan, salue quant à lui l'engagement du gouvernement zimbabwéen d'organiser des élections pacifiques, crédibles, inclusives et transparentes. La dernière mission électorale de l'Union européenne au Zimbabwe remonte à 2002. Son chef avait été expulsé avant la présidentielle. Dans la foulée, Bruxelles avait adopté des sanctions contre Robert Mugabe et certains de ses proches, accusant le régime d'atteinte aux droits humains.
Élection au Mali, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a officiellement annoncé sa candidature à un second mandat lors de l'élection du 29 juillet, où il affrontera au moins une quinzaine d'adversaires. Ces deux derniers mois, des coalitions de dizaines d'associations et de partis de la majorité présidentielle avaient proclamé leur soutien à une telle initiative. Mais c'est seulement lundi que le président Keïta a fait acte de candidature. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Bamako, Kassim Traoré.
C'est sa résidence de Sirinikuru qu'il a choisi pour déclarer sa candidature à la prochaine présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Je ressens simplement et seulement le profond désir de poursuivre mon devoir, qui est de servir au mieux le Mali, en ces heures où les incertitudes ne sont pas encore totalement levées. Mes chers compatriotes, voilà la raison pour laquelle je me porte candidat à la présidentielle du 29 juillet 2018.
En officialisant sa candidature, Ibeka sait qu'il sera soutenu par 68 formations politiques, même si la Dadema, deuxième partie de cette coalition, est divisée.
Lorsque je serai élu, si Allah subhanahu wa ta'ala et vous le vouliez et le favorisiez, je me donnerai comme priorité de consolider les acquis, d'améliorer la prise en charge des urgences et de restituer entièrement à notre pays sa grandeur de nation debout. En tête des priorités, je placerai la sécurisation de notre territoire national.
Ibeka prouve que son bilan est positif. C'est pour cela qu'il n'hésite pas à briguer un second mandat.
Pour ma part, je fais confiance au peuple malien pour trancher sur la pertinence de ce qui lui sera proposé lors de la future campagne électorale. Chers compatriotes, le mandat arrive à son terme. La mission a été accomplie. Nous venons en confiance, encore une fois, solliciter qu'il vous plaise la reconduire.
Cette année, les jeux sont ouverts par rapport à la présidentielle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Crise en Libye, le président français Emmanuel Macron a réuni les quatre principaux acteurs du conflit libyen ce mardi au palais de l'Élysée à Paris pour tenter d'organiser des élections dans le pays et sortir la Libye de l'ornière, 7 ans après la chute du dictateur Muammar Kadhafi. Le premier ministre du gouvernement libyen d'Union nationale reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, le président de la Chambre des représentants, Aguila Sala, basé à Tobrouk, également dans l'Est, et celui du Conseil d'État, la Chambre haute à Tripoli, Khaled al-Mechri, ont été accueillis tour à tour par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, sur le perron de l'Élysée. Mais la tâche ne sera pas facile, Abdourahmane Dia.
Pour le Centre d'analyse International Crisis Group, cette conférence risque d'être contre-productive en l'absence d'un consensus plus large incluant d'autres acteurs politiques et militaires de ce pays. Le Centre de réflexion souligne l'absence de la ville de Misrata qui compte les groupes armés les plus puissants et les hommes politiques les plus influents dans l'Ouest libyen. Un certain nombre de Libyens ont été invités à participer en marge de la réunion mais ne seront pas invités à signer l'accord, ajoute International Crisis Group. Cette approche n'a pas plu notamment à la délégation de la ville de Misrata qui a refusé de se rendre à Paris. La France tente d'obtenir notamment un engagement collectif pour la tenue d'élections présidentielles et parlementaires d'ici la fin de l'année.
Au Cameroun, trouver les moyens financiers pour assurer les soins de santé et l'éducation de leurs enfants relève d'une véritable gageure pour la plupart des parents d'enfants autistes. Pour essayer de s'en sortir, les parents en question ont créé à Douala, la capitale économique du Cameroun, l'association des parents et personnes vivant avec le handicap. Plus de détails avec le correspondant de VOA Africa Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Pratiquer l'agriculture en cultivant du manioc, l'activité réunit ce jour une dizaine de parents d'enfants autistes. Nous sommes à Douala, au lieu dit PK24. Sur 1 hectare, des hommes et femmes s'échinent et enfoncent les boutures de manioc dans le sol. Tous ont un dénominateur commun, un enfant autiste, et cela a bouleversé leur vie. Nadège et Nadine, respectivement mères des enfants autistes de 12 et 13 ans.
Il faut avouer, c'est pas facile. Notre façon de manger a changé à la maison. C'est difficile pour nous, des maladies autres que leur propre maladie. Seulement acheter les comprimés de ces enfants, les consultations, dénier des médicaments de nos enfants, si ça ne coûte pas cher. C'est 10 000 francs.
Après 2 ans d'existence de leur association, les parents d'enfants autistes ont créé un champ agricole, objet de tant d'espoir. Hortense Ngambou, présidente de l'association des parents et personnes vivant avec le handicap.
Ça, c'est un espace qu'on nous a donné pour pratiquer la culture. Nous sommes en train de travailler comme ça pour mettre quelque chose sur pied. Les revenus de ça, ça peut nous aider pour les médicaments des enfants parce qu'il y a des enfants qui vivent avec des convulsions toute la vie. Alors que si nous, peut-être, on avait notre espace pour travailler, notre terrain même, on pouvait faire mieux que ça.
Au Cameroun, la socialisation des enfants autistes demeure pour leurs parents un gros défi à relever au quotidien. Katmir Kromedio et Karine et Bengo, parents d'enfants autistes âgés de 7 ans et 11 ans, avouent à VOA Afrique que leur progéniture vive l'exclusion sociale.
Moi, je l'ai inscrite à l'école à 4 ans. Nous avions convenu avec les dirigeants qu'on devait l'observer aussi au moins 3 ans. Au terme de la première année, on l'a renvoyé, disant que pendant que d'autres enfants disent « Ah, elle est incapable de pouvoir lui dire », c'était pour moi une trahison.
Ce n'est pas toujours facile d'accepter un enfant autiste. On se dit que ce sont des enfants différents, ils ne sont pas des enfants comme les autres, ils sont un peu marginalisés.
Sur le plan éducatif, La ville de Douala n'a qu'un seul centre spécialisé pour les enfants autistes. Il faut débourser 450 000 francs CFA pour une année scolaire. À Yaoundé, grâce à l'éducation inclusive, l'école spécialisée pour enfants déficients auditifs accueille désormais quelques enfants autistes. Mais rien n'est facile ici pour ses élèves et leurs enseignants. Depuis 2015, le pays forme des éducateurs pour enfants autistes. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.